J'avais une intention au début, je n'ai pas appliqué cette intention tellement l'aspect de clair-obscur de cette salle et puis votre nombre m'impressionnait. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un, par exemple, qui, dans cette noble assemblée, accepte d'être horloger? Parce que je crois que vous avez des habitudes, je peux ne pas les partager, mais je suis prêt à m'y soumettre. Et il faudrait quelqu'un qui, à un moment donné, crée les interruptions qui seraient utiles, ne serait-ce que pour les collègues qui ont la chance d'être au plus près de la porte et qui pourront se volatiliser avec une gentillesse et une prestance. Alors, un horloger, voilà un premier rôle que j'ai fait aussi avec d'autres collègues comme vous de spécialisation il y a déjà quelques années. Je souhaite et aussi qu'il y ait des collègues qui acceptent d'être des questionnaires. Tout à l'heure, nous avons eu une collègue qui nous a fait l'amitié de faire mieux qu'une question, une interpellation pour nous tous, une remarque à propos de la pédagogie différenciée. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ruminent, qui peuvent essayer d'être des questionneurs? De même qu'il peut y avoir dans des classes des élèves questionneurs, il y en a. Mais un rôle, c'est autre chose qu'une initiative non reconnue. Le rôle reconnaît. Et je ne cesse d'insister au ministère comme ailleurs sur l'importance de confier des rôles aux élèves. Nous avons mis 30 ans à faire que le rôle en second degré de délégué élève existe. Ça a été dur. Mais il y a des quantités d'autres rôles. Alors certains collègues l'ont fait de manière admirable. Je pense à l'exemple d'un collège de classe de 6e, d'un collège de Montpellier, dans lequel les collègues autour du professeur principal, qui était un angliciste, ont réussi à confier une cinquantaine de rôles répartis à une classe de 24 élèves. C'est-à-dire que chaque élève avait deux rôles. Et des rôles dont certains avaient un côté tout à fait pittoresque. Alors il y avait des rôles classiques, responsables du tableau, de l'armoire, de la distribution, de ramassage, etc. C'était des élèves. Des enseignants toujours ont certaines tendances à faire eux-mêmes ce que les enfants peuvent faire, ce que les élèves peuvent faire. Et plus ils peuvent faire, plus ils sont intéressés, plus ils sont vivants, plus ils sont mis en dynamique. Au lieu d'être sacralisés sur leur siège en étant que simplement des coups qui transparaissent ou qui devraient transparaître, au lieu qu'il y a une animation plus générale dont il faut tenir compte. Et il y avait un rôle d'humoriste. Et justement, avec des enseignants aussi, j'ai souvent demandé, est-ce qu'il n'y a pas un humoriste dans la salle? Les fois où je l'ai demandé, je m'en suis bien trouvé. Parce qu'il y a des humoristes dans les salles. Et c'est nécessaire. Pas de possibilité d'enseignement, surtout spécialisé, sans souplesse de l'humour, sans façon de relativiser les choses et d'inverser certaines choses et de vivre certains paradoxes et d'avoir de la bonne humeur. C'est pas si simple. Et l'humour peut nous aider. Et les Français, je sais bien, n'aiment pas beaucoup l'humour, sous prétexte que le mot nous revient du mot humeur que nous avons projeté outre-Manche et qui nous est revenu ensuite par le fait que nos amis britanniques ont la détestable habitude de déformer les choses simples et qui, au lieu de dire humeur, ont dit humour. Alors nous avons repris les choses, mais avec toujours une certaine suspicion qui, évidemment, relève de la guerre de 100 ans et de quelques autres, indépendamment des ententes cordiales qui ponctuent de temps à autre nos délicats rapports outre-Manche. Heureusement qu'il y a un tunnel maintenant pour faciliter les choses, encore que. Alors, effectivement, humour. Donc, des humoristes. Et puis, souvent, je demandais des dessinateurs et des collègues qui pouvaient dessiner sur les tableaux pendant qu'on parle. Vous savez que cette idée, elle est faite à la télévision, dans différentes émissions, et en particulier, on peut plaire à tout le monde, enfin à peu près. Vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des quantités. Donc, je l'avais fait également à la demande d'un ministre belge de l'éducation francophone, qui était M. Di Rupo, et qui m'avait demandé justement de former des enseignants pour aider une transformation de l'école qu'il souhaitait. L'école belge à l'époque, elle est encore, mais était terriblement, comment dirais-je, exigeante, puisque chaque fin de classe, il y avait un examen, et il y avait donc des redoublements en cascade. C'était, avec la France, un des rares pays à faire du redoublement. Vous savez qu'on commence à considérer ce que nous n'avons cessé de rappeler à partir de recherches, c'est-à-dire que ce n'est pas rentable à tous les coups. Il y a des cas évidents, mais que ce n'est pas une pratique possible sans certaines précautions considérables. Eh bien, avec M. Di Rupo, j'avais donc un ensemble de collègues qui allaient devenir les formateurs. J'ai demandé un dessinateur. S'il y a un dessinateur, tout le monde m'a désigné quelqu'un, évidemment. Des dessins adorables, si adorables que quand le ministre les a vus, il les a fait reproduire dans une brochure qui a été tirée à 700 000 exemplaires sur l'évaluation, qui était le problème clé, qui reste l'un de nos problèmes, le problème clé de l'époque et dans lequel se... Donc, si vous voulez, il y a des dessinateurs. Alors, je suppose qu'il y a des dessinateurs ici aussi. Et effectivement, vous voyez ce que serait un travail si ces dessinateurs allaient là-bas au tableau, nous dessiner certaines choses. Parfois, je me fais prendre dans l'opération et ma figure caricaturale s'y prête. Par conséquent, je peux être au niveau, mais ça rentre bien dans l'idée. J'ai eu la même chose d'ailleurs en Uruguay. En Uruguay, avec comme ça des collègues qui ont fait des dessins absolument charmants, qui nous mettaient en interaction avec des collègues d'inspecteurs et directeurs avec lesquels nous travaillions à l'époque. Alors, je vais là encore. Est-ce que j'ai lancé des idées? Je vais vous dire encore quelques rôles possibles et puis je vais vous voir comment vous réagissez. Il y a un rôle que j'aime bien, indépendamment de celui de dessinateur, c'est le rôle de synthétiseur. Parce que d'abord, les jeunes adorent ça, les synthétiseurs. Alors, des gens qui, de temps en temps, ponctuent, pourquoi pas. Puis des observateurs. Alors, ça, la notion d'observation ne vous est pas inconnue, même si elle n'est souvent pas développée avec les technologies utiles. Comment on observe? Dans quelle disposition on observe? Quelles précautions à prendre pour le lieu, le moment d'observation? Bon, c'est pas... Tout ça n'est pas simple. Il y a des choses riches et des choses fines. Et je sais que vous pratiquez les uns et les autres des réalités qui sont... apparemment, certains diraient des détails, mais nous savons combien les détails sont importants. Ils disent beaucoup de choses, et ils sont graves même. Eh bien, bien entendu, des observations, comment les faire? Et alors, je me souviens, là encore, vous voyez, je parle de quelques souvenirs pour étayer mes propos. Le directeur de l'ENA m'avait demandé, plusieurs années, de venir faire travailler les promotions. Et donc, j'avais demandé que... Il y a un groupe d'élèves qui acceptent d'être observateurs de leurs camarades et puis quelques-uns observateurs de ce que je ferais. Ben, c'était intéressant de voir ce qui se passait. Alors, il y avait 8 élèves qui devaient discuter d'un grand thème. Pendant ce temps, les autres, les centaines qui restaient, pouvaient envoyer des messages écrits qui étaient adressés pendant que les autres parlaient à ces observateurs, qui pouvaient les classer et qui ensuite en rendaient compte lorsque, après coup, les 40 minutes ou 45 minutes de discussion entre le groupe des 8 étant fini, on prenait contact, qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens réagissent. En général, je ne vous étonnerai pas, en vous disant que beaucoup des messages d'observation de ceux qui observaient, ceux qui travaillaient, étaient de nature plutôt méchante. Je ne vous étonnerai pas beaucoup sur... la réalité des mœurs administratives de la haute fonction, dans lesquelles les soutiens réciproques ne sont pas nécessairement garantis. Mais ça permettait de faire passer certaines choses et d'analyser justement la manière dont les gens résistaient à l'écoute de ce qui était dit et au lieu de ce qui était dit, projetaient immédiatement leurs propres sentiments, leurs propres idées, leur propre manière de voir, ce qui les empêchait d'écouter. Et c'est bien ce qui peut se passer aussi quand on n'écoute pas ce que peut dire un enfant en difficulté ou, a fortiori, un enfant handicapé par les moyens ou les signes dont il peut disposer. Alors là, ça a été très, très spécifique. Nous avons beaucoup plaisanté avec le directeur de l'école, ensuite avec quelques-uns, sur justement ces façons de mettre en évidence quelques travers. Et là encore, je ne vous cacherai pas, je ne dirai rien du gentil premier degré, mais dans le second degré, la douceur affable des relations des salles de professeurs fait partie des choses les plus exquises qui soient sur la réalité du monde tel qu'il est, comme vous le savez. Ils se disent des petites gentillesses, des petites choses, et effectivement, ceci m'a permis parfois de rappeler un film que vous connaissez peut-être, L'ange exterminateur de Bunuel. J'en parlais encore récemment avec Jean-Claude Carrière, qui a beaucoup travaillé avec Bunuel. Alors, l'aspect de Bunuel, j'en ai tiré une théorie de l'effet Bunuel, est très intéressante dans ce film. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film, L'ange exterminateur ? Pas vu. Il devrait être absolument obligatoire à tout enseignant, même spécialisé et surtout spécialisé, d'avoir vu ce film. Que se passe-t-il ? Il se passe quelque chose qui est très, très illustratif de certains problèmes. Une soixantaine de personnes sortent d'un opéra à Mexico. Ils arrivent dans une maison somptueuse. Ils vont prendre un repas avec de beaux cristaux, de belles argenteries. Et à ce moment-là, premier phénomène, les gens de maison qui sont là sentent qu'il faut qu'ils s'en aillent. Ils ne peuvent pas rester. Les gens veulent rester entre eux. Ils veulent pas de... Bon, alors, le personnel de maison s'en va. Et les gens commencent à parler et à parler comme on parle avec le charme discret de la bourgeoisie ou le charme non moins discret de certains collègues enseignants. Et donc, ils se disent des petites gentillesses vacheries, très gentilles, etc. Et les choses continuent donc avec la manière dont Bunuel s'est nous secoué jusqu'au moment où une dame qui n'est pas une cantatrice déclare qu'elle veut chanter. Elle chante. Et quand elle a fini de chanter, se passe alors l'effet Bunuel, c'est-à-dire que toutes les personnes convainquent toutes les autres autour d'elle que les portes de la maison où ils sont fermées et que ce n'est pas la peine d'aller voir puisqu'on l'a déjà vérifié. Donc les gens s'auto-enferment. À l'extérieur, les gens ne voyant pas sortir commencent à s'attrouper. Le préfet de police, des gendarmes, tout ce que vous voulez, la population, et même un petit gamin qui, lui, avec sa candeur, il a un ballon, mais il va s'approcher, il va ouvrir la porte, tout le monde le regarde. Oui, mais au moment où il va ouvrir la porte, qui est réellement ouverte, un coup de vent, le ballon s'en va, donc on en est pour ses frais. Les gens attendent à l'extérieur, de même que les gens attendent à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Eh bien, il se passe des tas de symbolismes, des tas de choses dont on se demande si c'est de la vérité. On voit, par exemple, des bras coupés qui circulent. Effectivement, symboliquement, les gens se sont coupés les bras, puisqu'ils ont dit que c'était fermé. C'était dans un cadre fermé. Alors, à un moment donné, ils ont l'idée géniale d'ouvrir avec un pic la conduite d'eau pour voir s'il y avait vraiment de l'eau. Mais ils auraient pu aller au robinet. Non, non, ils ouvrent... Enfin, les choses durent le temps qu'un film bien né doit vivre, jusqu'au moment où, pour terminer, la dame donc, qui a chanté dit « Mais enfin, on nous a dit, après que j'ai chanté, que les portes étaient fermées, on a dit qu'on avait vérifié. Allons revérifier encore, pourquoi pas ?» Ils vont, évidemment, les portes sont ouvertes. Du coup, ils sont tellement transformés par ce miracle des portes ouvertes qu'il se précipite dans une église pour faire chanter un Tédéum. Et quand les trois prêtres, à l'issue du Tédéum, vont vers la sacristie, ils se retournent et ils s'aperçoivent que tous les gens qui étaient là sont bloqués sur les portes de l'église et n'osent plus sortir. C'est l'auto-enfermement dans des habitudes, des routines, ou des conceptions d'un programme monolithique qui doit être exécuté monolithiquement en fonction d'habitudes, en fonction de préjugés qu'on suppose sur les autres, etc. C'est une belle, un beau film à voir et revoir. Et en nous disant toujours, et je le dis souvent aux collègues, en particulier à propos du programme, mais le programme, c'est pas une fermeture, une auto-fermeture, alors que l'auto-fermeture est... Non, le programme est fait pour faciliter le travail, les adaptations, les créations originales que va faire un enseignant avec la classe telle qu'elle est, et jamais une classe ne ressemble à une autre classe, nous le savons bien. Et il y a des élèves différents, et il y a besoin de faire quelque chose. Alors il y a des socles, d'accord, il y a des choses importantes pour tous, mais est-ce que tout le monde doit faire les mêmes choses dans le même temps, dans les mêmes conditions, dans les mêmes compétitions, dans les mêmes mises en compétition? Qu'est-ce que ça veut dire? L'important, c'est d'acquérir. L'important, c'est de progresser. Et c'est là ce que vous devinez que se placent et les difficultés vécues par des élèves en difficulté et ceux vécus par les élèves handicapés. On a besoin de cette souplesse. On a besoin, et moi je l'ai souvent dit, pour une discipline quelle qu'elle soit, si, je l'ai devant dit devant des inspecteurs généraux, je n'ai jamais été lynché, je le dis, si dans les 3 semaines après la rentrée, vous vous présentez gentiment, avec suffisamment de détails, d'illustrations, de petites déclarations avec les élèves, vous présentez tout ce qui est écrit dans le texte du programme, et bien au bout de 3 semaines, vous avez fini d'enseigner le programme et vous allez pouvoir commencer à enseigner la discipline ou à enseigner les disciplines. Vous allez pouvoir commencer tranquillement, vous avez fini le programme, vous l'avez fini. Alors évidemment, comme je suis gentil et que j'ajoute des idées audiovisuelles, donc de travelling avant, je dis, eh ben, vous avez fait un panoramique dans ces 3 premières semaines. D'accord. Après, vous allez faire du travelling avant. Vous n'allez pas tout présenter du programme.